La sex exploratrice avec Mel Trudel.
La sex exploratrice
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute encore une fois de la Sexploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max Lacoste.
Bonsoir Mel.
Quelle entrée.
Ça c'est toute une entrée, on dirait je m'en vais me battre à la lutte.
Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien Max, belle journée?
Ça va très bien, journée fort occupée, j'étais dans le show du midi avec les amis aujourd'hui, passé la journée à station, j'ai pas
ben
du temps à passer, puis toi comment ça va?
On s'est croisés, moi aussi, belle journée, j'étais dans le show du retour.
Ben oui, c'était-tu bon ça?
Ah, que je les aime!
Oui.
Ah ouais, vraiment. J'ai eu la chance d'être avec eux cet été. J'ai adoré la chimie qu'on avait. Encore une fois, là, aujourd'hui, demain, j'ai très hâte. Non, ça va être super le fun, en remplacement de la belle Josée. Donc, merci Josée de prendre congé. Je suis vraiment contente.
T'as enfin pu poser les yeux sur les chemises légendaires de DH.
Quelle belle... DH est toujours bien habillé, hein?
Ouais, il tire à quatre épingles, ce gars-là.
Lui puis Steve, au ventre, là, sont toujours sa coche.
Deux cartes de mode!
Carrément! Mais c'est vrai, c'est vraiment des hommes qui ont du goût et du style.
T'es en train de dire que j'ai pas de goût, moi?
Non, t'en as.
Ouais, ben oui.
Donc, Max... ce soir, on a déjà parlé de transsexualité. On a reçu Dominique Thibault, qui est un homme trans et qui nous a parlé de sa transsexualité.
Tout à fait.
Mais ce soir, on a une invitée qui est créatrice de contenu, qui est actrice, auteure d'un livre intitulé « Je suis Gabrielle » aux éditions de l'Homme et dans lequel elle lève le voile sur la transsexualité. Et c'est pas moins qu'une référence pour la communauté LGBTQ+, au Québec. On a avec nous ce soir l'honneur d'avoir la magnifique Gabrielle Marion.
Bonjour, Gabrielle.
Allô?
Bonsoir!
Bonsoir!
Merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Ça n'a pas assez proche qu'on soit ensemble en studio, mais une prochaine fois, promis.
Absolument.
Oui, t'es tellement sympathique, t'es tellement belle à voir aller. T'es un peu partout, en fait, on dirait. T'es partout sur les réseaux. C'est ton principal travail, si je ne me trompe. Bien, ton principal, c'est pas vrai. Tu as un autre travail là, dans le domaine de l'esthétique?
Exact, oui, c'est ça. Mais c'est quand même un de mes emplois, je te dirais, que je pourrais faire ma vie avec ça, mettons. Je pourrais vraiment vivre de ça, oui.
C'est génial. Et tu as également une série web, finalement, qui est disponible encore sur les ondes de Novo, si je ne me trompe?
Oui, exactement. C'était tellement un beau projet, là. Comme, pour de vrai, je recommande tout le monde d'aller l'écouter parce qu'on voit tous les envers un petit peu de oui, mon côté créatrice de contenu, mais mon côté de ma petite vie de tous les jours, mes parents, puis c'est vraiment hot comme web-série, fait que je recommande à tout le monde d'aller l'écouter.
C'est vraiment touchant. On voit vraiment ton histoire, finalement, le parcours, ton parcours depuis le début, finalement, de ton histoire de ta transsexualité. Est-ce que tu peux, un petit peu, pour les auditeurs là, qui ne te connaissent pas, nous raconter, bon, à partir de quand est-ce que tu t'es sentie différente, finalement? T'as vécu quand même la dysphorie de genre, donc comment est-ce que tu as vécu ça? Et ta famille, également, t'a vraiment bien soutenue dans tout ça?
Oui, vraiment. Bien, je te dirais que ma dysphorie de genre, elle a vraiment commencé très, très, très jeune. Tu sais, j'étais pas vraiment consciente de qu'est-ce que c'était à l'époque, mais je te dirais que mes premiers signes, c'est vers l'âge à peu près de 6 ans. Que vraiment, là, j'ai commencé à... J'exprimais une féminité un petit peu hors de la norme dans ma petite peau de garçon, mettons. Puis, en vieillissant, bon, évidemment, j'ai dû un petit peu mettre ces pensées-là de côté. Mais pas ces pensées-là, mais c'est cette façon de vivre un petit peu ma jeunesse, parce que mes parents me laissaient vivre comme j'avais envie de vivre ma vie. Mais évidemment, bon, l'école, à un moment donné, commence. Puis, bon, tu peux pas mettre des robes de princesse en allant à l'école. Parce que, bon, ça allait...
La société a décidé que tu pouvais pas, en fait.
C'est ça, exactement. En fait, c'est ça. Fait que, tu sais, mes parents m'ont toujours laissé être qui je voulais à la maison, jouer le rôle de la princesse tout le temps. Mais évidemment, ils savaient que, bon, rendu à l'école, je devais, tu sais, fitter un petit peu plus dans la société. Mais ça continuait quand même dans ma tête, je te dirais. Tu sais, j'espérais tellement, mettons, je me suis à 9 ans, j'espérais tellement avoir des menstruations ou de me réveiller le lendemain étant une fille. Tu sais, mettons, je souhaitais le soir avant de me coucher que le lendemain, j'allais m'être transformée comme Cendrillon, genre. Mm. Fait que ça va quand même vraiment de loin, mais je te dirais qu'à un moment donné, la vie, elle m'a emmenée à, bon, je sais pas, essayé d'être un petit peu quelqu'un d'autre. J'ai essayé de fitter plus dans la société. J'ai cru que j'étais un garçon homosexuel à un certain point.
Parce que tu avais quand même une attirance envers les hommes, envers les garçons à ce moment-là?
Oui, exactement, okay. C'est ça. J'avais une attirance envers les garçons, tu sais. Puis ça, je l'ai senti depuis ma tendre enfance. Fait que à la base, je savais même pas que la transsexualité existait de toute façon. Fait que pour moi, bon, si je suis un garçon qui aime les garçons, I guess que je suis homosexuel. Hein? Mm-hmm. Alors, j'ai vagué là-dessus pendant quand même vraiment longtemps. Puis à un certain point, je te dirais, dans mon début d'adulte, les idées un petit peu, ben ma dysphorie a recommencé à resurfacer. Mes idées avant de me coucher étaient très mélangées face à mon identité. Puis vers l'âge de 20 ans, j'ai commencé à consulter.
À l'époque où tu refoulais les émotions relatives à ta dysphorie de genre, comment tu te sentais?
Ben, je me sentais, je te dis, ben, c'est sûr qu'à un certain point, je me sens, ben, c'est difficile à dire parce que je savais pas exactement c'était quoi cette dysphorie de genre-là. Tu sais, c'est sûr, j'étais pas confortable dans mon corps, j'étais pas confortable avec le sexe que j'avais entre les jambes, j'étais pas confortable avec ma, quand que les poils commençaient à pousser, notre corps commençait à changer, quand on était vers 12, 13 ans, je me sentais, admettons, là, juste pour te donner un exemple, je m'épilais, je commençais à avoir des poils vraiment tôt. À 12 ans, j'avais beaucoup de poils de barbe puis de moustache. Puis je m'épilais au nerf à chaque semaine pour être sûr qu'il n'y a aucun poil parce que ça me répugnait. Alors que, tu sais, les jeunes garçons, normalement, ils ont tellement hâte que leurs poils poussent dans leur visage puis ils commencent à avoir une barbe. Moi, c'était pas du tout le cas. Je m'habillais avec des, même s'il faisait 40 dehors l'été, je m'habillais avec des gros cotons-tiges qui cachaient mes bras parce que, bon, j'avais des poils sur les bras, puis j'avais des attributs masculins, veux pas. Fait que j'essayais vraiment beaucoup de cacher ça. Puis ça m'a vraiment éclairé dans ma tête que j'étais très inconfortable avec mon corps. Mais évidemment, avec le temps, bon, je veux dire, on essaye de fitter. Fait que j'ai comme essayé d'apprécier mon corps comme il l'était. J'ai essayé d'aller au gym, j'ai essayé d'être plus masculin à un certain point. Mais on dirait que ça n'aidait jamais ma tête à être bien.
Puis à ce moment-là, tu fréquentais des hommes déjà ou?
Exact, oui, okay. C'est ça.
Et là, t'as quel âge aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai 30 ans.
30 ans? Et c'est vers l'âge de, en fait, à 19 ans, t'as écrit ton livre. Donc, vers quel âge est-ce que t'as commencé la transition?
Non, en 19, j'ai écrit.
En 2019, excuse-moi.
En 2019, ouais,
oui, excuse-moi, excuse-moi.
Non, non, c'est correct. J'ai vraiment entamé mon hormonothérapie, donc ma transition médicale vers 21 ans.
OK. Donc, l'hormonothérapie, durant quoi? Un an environ?
Non, l'hormonothérapie, en fait, ça l'arrête jamais. L'hormonothérapie, là, je vais être sur l'hormonothérapie toute ma vie, mais seulement avec l'estrogène. Quand j'ai commencé mon hormonothérapie à 21 ans, j'étais sous bloqueur de testostérone, puis je commençais à prendre l'estrogène. Puis au fur et à mesure, bon, évidemment, j'ai eu une vaginoplastie en 2019. Fait qu'à ce moment-là, j'ai pu arrêter mes bloqueurs de testostérone puisque j'en fais quasiment plus. Et je suis juste sur l'estrogène, mais ça, je vais devoir prendre ça toute ma vie.
Au moment où tu as entamé ton hormonothérapie, comment ça a été reçu dans ton entourage, dans ta garde rapprochée, chez les gens qui t'aiment, sa transition?
Ben, en fait, je te dirais que la chose que j'ai faite différemment, c'est que j'ai commencé tout ça toute seule. J'ai commencé à consulter, j'ai pas dit à personne, pas à ma famille, pas à aucun de mes amis. Je disais à ma mère que bon, je m'allais faire autre chose, whatever, puis j'allais voir mon psy à chaque semaine, tu sais. Puis, j'ai décidé de faire ça toute seule. J'ai pris mes rendez-vous toute seule médicales, sans le dire à personne, mes prises de sang. J'ai vraiment pris de l'avance sur tout. Quand j'ai commencé mon hormonothérapie, je l'ai commencé toute seule aussi parce que je voulais être sûre que, tu sais, c'est pas du tout un choix, là, la transsexualité, mais c'est quand même quelque chose qui est énorme. Et l'hormonothérapie peut bien se passer comme elle peut ne pas bien se passer. Fait que je voulais comme pas commencer à dire ça à tout le monde, que je commençais ce cheminement-là. Si jamais il se passait quelque chose...
T'as envie de reculer, disons.
C'est exactement. Fait que, tu sais, j'étais comme, je vais le lever tout seul, je vais voir comment ça se passe. Puis au moment où je vais me sentir prête, ouais. Mais honnêtement, là, quand t'es vraiment motivé et déterminé dans la vie, là, peu importe, genre, t'as pas besoin des autres pour faire tes affaires. Tu sais. Fait que c'est vraiment ça que je me suis rendu compte, puis je voulais vraiment le faire tout seul, puis je voulais pas aussi que personne me fasse reculer, tu sais.
Ah, c'est bon. Mais là, à ce moment-là, tu es déjà en suivi psychologique, médical, tu es bien soutenu quand même là, par le système là, de ce côté-là.
Absolument. C'est sûr que je te dirais qu'aujourd'hui, les systèmes sont un petit peu plus complexes parce que les attentes deviennent de plus en plus longues. Il y a beaucoup plus de gens qui font des coming out, qui font des transitions, qui veulent entamer ça parce que c'est devenu beaucoup plus mainstream et il y a beaucoup plus de représentations aujourd'hui qu'à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y en avait pas pantoute en fait. Puis, mais à ce moment-là, pour vrai, j'ai vraiment eu... Je dirais pas une facilité parce que c'est quand même complexe, mais j'ai eu la chance de facilement avoir mes rendez-vous. J'étais allée au privé pour la sexologue, psychologue, puis j'ai été voir des médecins en, tu sais, des rendez-vous du lendemain. Tu sais, mettons, tu appelles le soir, puis le lendemain, tu as un rendez-vous au médecin. J'étais allée voir des médecins comme ça pour me faire prescrire des prises de sang hormonales pour que mon endocrinologue aille déjà ça quand j'allais avoir mon rendez-vous. En tout cas, j'ai vraiment été très rapide dans mon processus en sachant que c'était vraiment ça ma situation.
Et lorsque tu as pris ton rendez-vous pour la transition physique, tu étais certaine de ton choix? Tu étais déterminée à le faire?
Tu veux dire pour l'hormonothérapie ou les chirurgies?
Pour la chirurgie, pour la transition.
Pour la vaginoplastie, c'est 100% sûr.
Okay.
C'est sûr que c'est toujours quand même c'est une très grosse étape, évidemment. Ouais. Ça a été pour moi mon avant-dernière étape, genre, dans mon processus, parce que c'est pas toutes les personnes transgenres qui ont nécessairement besoin pour eux, pour leur dysphorie de genre,
exact,
de faire cette opération-là. Pour moi, c'était vraiment important parce que j'ai jamais été en accord avec le sexe que j'avais, en fait. J'ai jamais été à l'aise. Fait que pour moi, déjà, en partant, il m'a pas beaucoup servi à grand-chose dans ma vie, même si j'ai eu plein de relations et tout. Et au moment où j'ai transitionné, dans le fond, à hormonothérapie et tout, j'ai été en couple aussi. J'ai été en couple tout le long de ma transition. Et c'était déjà aussi un instrument de mon corps que je n'utilisais pas du tout. Fait que, de toute façon, il ne me servait à rien. Okay. Et j'avais juste hâte de pouvoir être enfin à l'aise dans mes vêtements, dans ma sexualité. Quand je m'arrêtais et que je me regardais dans le miroir, je commençais à refléter beaucoup plus comment je me sentais en dedans. Mais quand j'enlevais mes pantalons, pour moi, c'était une autre histoire, admettons.
Donc, tu ne ressentais pas le besoin d'avoir de relations sexuelles relations...
Phallocentrées.
Phallocentrées, finalement. Tu arrivais à, j'imagine, quand même avoir des contacts sexuels, mais de d'autres façons avec ton partenaire?
Absolument.
OK. Et là, depuis que tu es passé là, à la transition, donc depuis que tu as eu ta vaginoplastie, premièrement, c'est quand même une grosse opération. J'imagine que tu as pris quand même un bon moment pour le rétablissement, finalement, de tout ça. Et le plaisir, est-ce que tu as réussi à le retrouver, à le trouver depuis? Est-ce que c'est bien différent?
Absolument. Pour de vrai, c'est sûr que c'est quand même c'est très différent.
Oui.
Mais c'est tellement mieux parce que c'est fou à quel point la sexualité a quand même un rapport avec la façon dont on se perçoit, de la façon dont notre tête est connectée avec notre corps, puis évidemment, je n'étais pas capable d'avoir du plaisir nécessairement avec ce que j'avais avant parce que ça ne reflétait pas du tout comment je me sentais à l'intérieur. Alors que là, c'est mille fois mieux parce que là, je me sens moi-même, je me sens sexy, je me sens... Tu sais, je ressens absolument plus
d'inconfort. Tu brilles, littéralement.
Exactement.
D'après ce
Pour répondre à ta question, je suis 100% capable d'avoir le même plaisir que n'importe quelle femme.
D'après ce que j'ai compris, Gabrielle, sur la vaginoplastie, tu peux avoir l'opération avec ou sans cavité. Dans ton cas, est-ce que ça a été un choix difficile à prendre? Et si oui, quelles sont les règles, les rudiments qui rentrent en ligne de compte pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire?
Ben, je te dirais que moi, c'était même pas une question. Quand j'ai eu ma vaginoplastie, je savais même pas qu'il y avait l'option de pas de cavité. Okay? Juste pour te dire à quel point pour moi, c'était même pas une option. Parce que bon, évidemment, j'étais jeune et tout, puis j'avais pas nécessairement peur des risques ou du négatif qui pourrait amener l'effet d'avoir la cavité. Fait que pour moi, c'était pas du tout une question. C'est sûr que dans le fond, l'histoire de qualité ou pas de qualité, ça peut aller autant à ce que juste la personne soit dysphorique par rapport à cette partie-là de son corps, mais ne est plus asexuelle, peut-être pas nécessairement envie de explorer tant sa sexualité de ce côté-là, parce que c'est pas juste une histoire de sexe, c'est une histoire juste d'être en harmonie avec son corps, puis tu sais, des fois, t'es pas bien avec ce qu'il y a entre les jambes-là. Fait que des fois, juste avoir le look, ça c'est assez pour certains. Même avec l'option sans cavité, il y a le clitoris quand même. Fait que possibilité d'avoir des orgasmes, d'avoir du plaisir à 100% quand même. Il y a juste pas de pénétration qui peut se faire. Puis, dans le fond, les raisons souvent que les gens disent pourquoi ils prennent la non-cavité, souvent, c'est que c'est des personnes un petit peu plus âgées qui, justement, ne pensent pas nécessairement avoir de pénétration sexuelle, que c'est pas leur, c'est pas ce qu'ils recherchent. Et des fois, ça peut être parce que la personne, son instrument de base n'est pas assez consistant en termes de peau pour pouvoir créer une cavité. Donc, normalement, quand c'est le cas, il faut aller chercher une greffe de peau au niveau de la cuisse et tout. Des fois, ça peut être plus difficile d'avoir une greffe au niveau une greffe tout court. En fait, une greffe, des fois, ça difficile un petit peu à rester en vie avec le corps, là. Ouais. Fait que des fois, les gens veulent comme pas aller vers ces complexités-là. Puis ça peut faire quand même des complications et tout, là. Fait que des fois, c'est peut-être une raison aussi pourquoi les gens prennent sans cavité.
Puis, au niveau, bon, c'est une question très personnelle, mais au niveau de la lubrification et tout, comment est-ce que ça fonctionne lorsque tu es passé à la vaginoplastie comme ça? Est-ce qu'il y a quand même tout le système, c'est quand même les mêmes... En fait, c'est les membranes qui sont transformées. Est-ce que ça lubrifie comme le vagin d'une femme? Ou j'imagine que tu n'as pas le choix quand même d'utiliser là, de la lubrification, mais est-ce que ça, il y a une certaine forme d'excitation qui crée... Je sais pas, là, je suis vraiment curieuse par rapport à ça.
Oui. Ben, dans le fond, là, chaque personne est un peu différente.
Okay.
Il y en a qui peuvent lubrifier naturellement après la vaginoplastie. Il y en a d'autres que pas tant. Moi, j'ai la chance d'être capable de lubrifier vraiment facilement.
Okay.
Mais c'est sûr que le fonctionnement est un petit peu différent dans le sens où la lubrification féminine, admettons, de naissance, c'est un petit peu plus au rebord du vagin, admettons.
Okay.
Alors, du vagin, en tout cas de la cavité vaginale, oui. Puis moi, c'est un peu plus à l'intérieur. Mais
d'accord.
Pas tant sur le bord. Fait que je te dirais que, parce que dans le fond, là, c'est comme un petit peu une histoire des muqueuses.
Oui.
On a un peu les mêmes affaires, les hommes et les femmes.
Ben oui, c'est ça. On n'est pas si différents.
C'est ça. Exactement. Fait que c'est toute une histoire juste de glandes, dans le fond, tu sais. Fait que c'est mes glandes qui font la lubrification et à l'intérieur de ma cavité, moi, dans le fond.
D'accord. Et tu es actrice également. Tu as joué dans deux films de Phil Cormier qu'on a eu la chance de recevoir en entrevue dans d'autres émissions ici sur les ondes de Choix Radio X. Donc,
oui.
Lorsque le cœur dérange et son petit...
Purgatoire.
Le purgatoire des intimes,
oui.
Dans lequel tu apparais, ma foi, en... Bien, on voit, il y a de la nudité, finalement, dans ce film-là.
Oui,
et est-ce
oui.
que ça a quand même été gênant pour toi de le faire ou tu es quelqu'un qui est assez à l'aise avec les scènes de nudité?
Bien, pour de vrai, moi, j'étais vraiment excitée de faire ces scènes-là. Quand que j'ai eu le script, puis bon, le contrat et tout, on m'avait justement demandé si j'étais à l'aise d'avoir la nudité, parce que j'ai quand même une bonne scène de nudité, là.
Oui.
Puis pour de vrai, j'étais tellement à l'aise que même sur le set, il y a tout le temps des bases à respecter un peu, de comme quand il y a une scène d'unité sur un set, faut après ça que quelqu'un mette la robe de chambre, pour que l'acteur, l'actrice soit à l'aise. Moi, pour de vrai, j'aurais pu rester les seins à l'air tout le long sur le set, je niaisais avec ça. Puis vu que je suis super à l'aise avec mon corps, ça me dérangeait pas du tout. Puis pour moi, c'était comme un petit challenge, mais en même temps, un challenge excitant, c'était rien de stressant, là.
Parlant de challenge, j'imagine que ça doit être challengeant aussi d'être une femme trans dans le milieu des acteurs et des actrices. Comment ça se passe au niveau du casting? Est-ce qu'on t'engage pour être une femme ou plus une femme trans? Est-ce que le rôle est dédié à ta situation à prime abord dans les films aussi?
Bien, je te dirais que Philippe Cormier a eu la bonne idée justement de me caster en tant que femme cisgenre hétéronormative, là, normale. Souvent, je te dirais que c'est un problème que les gens vont aller chercher une personne trans pour juste jouer une personne trans parce que en tant que telle, je suis pas juste une personne trans, mm-hmm. Je suis une femme quand même. Fait que tu sais, dans les deux films, je joue, comme je te dis, des personnes cisgenres. Si jamais j'ai un rôle à un moment donné pour une personne trans, ça me fait plaisir parce que bon, évidemment, je suis la meilleure placée pour jouer ce rôle. Mais je trouve ça bien que Philippe a pu sortir un petit peu de ça, parce que ça arrive beaucoup encore aujourd'hui que les personnes trans sont castées pour des rôles de trans. Pis, et non juste pour des rôles normaux.
Ton but, toi, c'est d'être une femme, donc c'est pas de rester... En fait, oui, t'es une personne trans, mais t'es une femme, là, t'es devenue une femme, donc on peut...
C'est ça, c'est comme essayer un peu de sortir de l'étiquette. J'ai déjà cette étiquette-là dans la vie de tous les jours, là, fait que même dans ma job, fait que c'est pas obligé nécessairement de l'avoir dans tous les castings de style.
Voilà.
Hey Gabriel, j'ai pas vraiment le choix de te demander, là, puisque t'es une figure assez prédominante dans le milieu des femmes trans au Québec. Qu'est-ce que t'as pensé des manifestations qui ont eu lieu à Montréal le mois dernier sur les idéologies de genre? Toi, quand tu vois ça, des affrontements entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre l'idée, ou bon, peu importe ce que ça veut dire, tu penses quoi de ça?
Ben, c'est sûr que, honnêtement, je trouve ça quand même dur parce que je viens d'un temps, moi, où oui, il n'y avait pas tant de représentation et non, il n'y avait pas autant de ressources qu'on en a aujourd'hui. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de reculer un peu à quelque part parce que on a avancé quand même depuis 8 ans. Là, tu sais, ça fait 8 ans que j'ai transitionné puis il y a eu beaucoup d'avancements dans la société depuis. Puis là, ces manifestations-là, puis... les gens qui sont contre des modifications que le gouvernement veut faire, puis finalement qui veulent défaire, ça me trouble un petit peu parce que j'ai l'impression que là, on recule au moment où on a comme avancé. Fait que c'est sûr que c'est un débat qui est pas encore fini, évidemment, puis on va probablement continuer à en vivre pendant un bon moment. Mais on va suivre les choses comme il se passe.
Est-ce que tu penses que l'avancement des hommes et des femmes trans va trop vite comparativement à l'avancement des mœurs sociétales, donc à la façon dont les gens perçoivent le phénomène?
Ben, honnêtement, je ne pense pas, parce que de toute façon, la transidentité a toujours existé. Fait que je pense juste que, oui, ça l'avance vite, mais en même temps, ça avance trop vite pour qui, tu sais, en tant que tel. Je pense que c'est juste d'essayer de mettre à l'aise le plus les gens possible, qu'ils soient trans, pas trans, non binaires ou quoi que ce soit. Tu sais, dans le fond, on essaie juste de vivre en paix dans une société puis tout le monde ensemble. Là. Fait que je pense que ça serait un bon compromis que tout le monde soit confortable dans chaque institution, toilette, etc. Là,
voilà. Gabriel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Comme je disais, t'es brillante, t'es attrayante. On a envie de te suivre sur les différents réseaux. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur YouTube, Instagram? Et c'est le temps là, de nommer toutes les plateformes où tu es présente.
Ben, dans le fond, je suis sur YouTube. Évidemment, sur YouTube, j'ai tout documenté ma transition de A à Z depuis 2015, si je ne me trompe pas. On peut voir toutes mes chirurgies, les vaginoplasties et tout. Donc ça, c'est ma plus grosse chaîne. Sinon, j'ai Instagram, évidemment, où je fais du contenu de tous les jours, lifestyle, des petits sketchs humoristiques. Et TikTok, même chose, petits sketchs du lifestyle. Non, comme tu as dit tantôt, j'ai ma web-série sur nouveau.ca. Puis j'ai mon livre aussi, Je suis Gabrielle, Confession d'une trans comblée.
Oui, merci. Merci beaucoup.
Merci à vous
autres. Au plaisir de te croiser dans la réalité.
Oui,
yeah. Merci, Gabrielle. Bonne fin de soirée.
Merci, vous autres aussi.
Merci, salut. Es-tu inspirante, elle, à ça, ton goût?
Ah, Seigneur, elle a une belle énergie, elle est fun à suivre, positive. Puis sa web-série, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment intéressant.